Chapitre 28.2 La vertu constante. Le chapitre précédent marque le début des commentaires du chapitre 28 du Tao Te Ching, dont voici le premier verset. Qui connaît sa force masculine et pourtant conserve sa douceur féminine est la vallée du royaume. Nous avons dit que l'expression « la vallée du royaume » se rapportait à l'intégration et à la participation à la fraternité de la vie, la communauté des âmes vivantes. À cette communauté est appelé tout homme qui, en tant qu'homme personnalité, amène de façon juste les deux courants monadiques à coopérer, la force du pouvoir et la force de la douceur. Lorsque ces deux forces se manifestent effectivement dans l'homme né de la nature, en une harmonieuse coopération, elles entraînent un total changement dans la vie de l'être concerné. Toutes les difficultés qui accompagnent la pratique du véritable apprentissage, et souvent constituent des obstacles absolus, ne seront plus qu'un souvenir. L'élève trouvera la paix parfaite au plus profond de son être, une paix qui dépasse de loin son état d'être né de la nature. La grande transfiguration commence alors, et il ou elle sera tout à fait apte à s'élever dans le groupe de ceux qui sont semblablement accordés et disposés, et à y participer. Le nouvel état d'être qui est celui des hommes qui vivent et agissent par les deux courants de la monade, la double force de la rose, est appelé dans la philosophie taoïste la vertu constante. C'est pourquoi il est dit « S'il est la vallée du royaume, la vertu constante ne le quittera pas et il retournera dans l'état simple et naturel de l'enfance. » Les deux courants de la monade qui se libèrent dans le candidat et se mettent à agir le rendent apte à poser le pied sur le chemin de la libération. Dès ce moment, il possède un pouvoir pratique utilisable pour s'élever hors de la nature de la mort, hors des expériences du nadir, et pénétrer progressivement dans la nouvelle nature sur la courbe de l'évolution. Il en a désormais l'aptitude, la vertu. Il a de nouveau vraiment acquis la filiation divine. Vous savez que la Bible parle abondamment de l'exceptionnelle vertu de la filiation divine. Dès que, dans le cœur de l'homme, les deux courants de la monade confluent et qu'apparaît la lumière de la vraie rose, la filiation, l'esprit de la filiation naît. Quand l'homme se transforme, grâce au juste comportement, alors le résultat en témoigne, l'esprit témoigne, comme le dit Jean, qu'il est devenu un enfant de Dieu. De même qu'un enfant est guidé pour accomplir sa vocation, s'il est éduqué de la juste manière, de même, l'élève né à la filiation divine pose le pied sur la courbe de l'évolution et, armé de la vertu constante qui en résulte, parcourt de la juste manière son chemin vers le haut. Tout ceci est associé à une mission, laquelle n'est pas totalement saisie par ceux qui se sont préparés au chemin, surtout au début. C'est pourquoi Lao Tzu donne sur ce point à ses élèves des indications plus précises. Il dit qu'il est nécessaire pour le candidat au mystère gnostique de rester dans l'ombre et dans l'opprobre. Cela paraît étrange, c'est pourquoi approfondissons ces paroles. La personnalité qui réussit à rendre manifeste l'harmonie des deux courants de la monade, la force masculine et la douceur féminine, la toute-puissance et l'amour divin, sera poussé intérieurement, sans pouvoir faire autrement, à servir, à aider, à être un exemple en y engageant sa vie entière, ceci au profit de tous ceux qui se trouvent encore dans l'ignorance et la grande confusion au fond du puits du nadir. C'est pourquoi il est dit « Qui connaît sa lumière et pourtant reste dans l'ombre est un exemple pour le royaume ». Un frère ou une sœur qui porte le signe de la vertu constante se joindra spontanément au rang de la fraternité servante. Insistons sur le fait que le texte commence par ce signe marquant. Qui connaît sa lumière ? Il s'agit donc de l'homme qui a rendu actif en lui les deux courants de la monade, la double force de la rose, et pénètre ainsi, à la lumière de l'autre règne, le champ de travail des ombres. Ceux qui vivent et travaillent avec les deux courants de la monade pratiquent en outre la juste coopération par le fait de la polarisation équivalente mais inversée. C'est précisément cette coopération qui les rend invincibles, parce que les deux courants divins sont portés à se manifester avec la même positivité et ne se consument pas l'un l'autre, résultat acquis uniquement par la coopération. Mais attention, à la condition que le groupe qui coopère ait compris l'essence de la vertu constante. L'homme libéré, bien que devenu auto-créateur, auto-réalisateur, recherchera, trouvera et appliquera donc toujours la coopération, par conséquent l'unité de groupe. Vous pourrez donc toujours savoir directement, par ses actes et par son comportement habituel, si un travailleur se place au départ du côté de la lumière ou du côté de l'ombre. Ceux qui refusent de collaborer ou acceptent la collaboration en théorie mais non dans la pratique et le moment venu vont leur propre chemin en toutes circonstances, imposent leurs propres lois et oublient totalement les lois de la coopération. Ceux-là sont encore des représentants typiques de l'homme du nadir. Ce sont ceux qui, parvenus à la fin de leur chemin dans le nadir, n'ont pas encore trouvé la vertu constante et suivent, de façon égocentrique, leur instinct inné de bonté et leur élan impulsif au travail. Or, ce faisant, ils accélèrent précisément le mouvement des forces contraires. Dans une école spirituelle comme la nôtre, un tel engagement égocentrique sera une source continuelle de difficultés, de tensions et un facteur de ralentissement. Qui vient dans notre école spirituelle ? En général, des êtres qui ont découvert le manque total de perspective de la nature de la mort et sont devenus sensibles à l'enseignement universel. L'enseignement universel les touche, à la suite de quoi ils passent par différentes phases de confusion dialectique, car le couvercle du puits est retiré, et des rayons de lumière percent à travers les ténèbres, étant donné qu'ils sont issus de parents qui sont aussi passés par les labyrinthes du pays des ombres. Ils ont tous un instinct de bonté et un pouvoir de volonté, activité réflexe et reflet très affaibli des deux courants de la monade. En outre, ils ont, évidemment, certaines dispositions, l'un le don de l'organisation, l'autre la parole facile, un troisième le talent d'écrire, etc. C'est du groupe si varié de ceux qui luttent au fond du puits du dépérissement et qui ont perçu quelques lueurs de la lumière que sont choisis les travailleurs introduits dans le processus de l'école spirituelle. Non parce qu'ils connaissent la lumière, mais parce qu'ils la cherchent et que, par leur engagement dans le travail, donc par la dure expérience, l'occasion leur est donnée de trouver la lumière et de comprendre la vertu constante. C'est pour cela que l'école est une école spirituelle. Et tous ceux à qui il est demandé de s'engager comme travailleurs reconnaissant l'unité de groupe et les exigences afférentes posées par la Sainte Loi, et spontanément avec obéissance et intelligence, se joignent à cette unité et, plein d'aspiration, s'insèrent dans cette coopération. C'est ainsi que naît une communauté d'amis. Car l'amitié aussi est un reflet des courants de la monade. C'est ainsi qu'apparaît dans un travail gnostique qui doit commencer à partir de la base, un groupe qui ne possède rien, qui ne possède encore rien, mais qui fait seulement beaucoup d'efforts avec sérieux et dévouement. Les élèves ne connaissent pas encore leur lumière. Leur soleil ne s'est pas encore levé. Ils sont obombrés par la lumière rayonnante du corps vivant en vue de leur renaissance. Dans un tel corps de travailleurs, il suffit maintenant qu'il y en ait quelques-uns qui soient obombrés par les forces de l'adversaire, consciemment ou non, De nombreuses occasions se présentent à ce propos en raison de dégénérescence physique ou psychique, pour qu'immédiatement le travail progresse plus lentement et soit même exposé au plus grand danger possible. Oui, c'est l'existence même de l'école spirituelle qui peut être mise ainsi en péril. Pourquoi ? Eh bien, vous avez vos amitiés. Vous connaissez les exigences de l'unité de groupe. Les reflets de bonté de la monade agissent en vous. L'adversaire connaît votre mentalité et vos agissements au cours de cette phase. Vous n'abandonnez pas non plus les liens créés par vous, sans même voir les dangers qu'ils représentent. Car votre amour pour votre ou vos compagnons du groupe est prédominant. Notez bien, non pas l'amour, mais le reflet de celui de la monade dans votre état d'homme né de la nature. Ce reflet dans votre état d'être non-né est considéré comme de l'amour. C'est ainsi qu'apparaissent les conditions d'un funeste ralentissement. L'aide de l'amour divin qui doit être offert à tous ceux qui s'écartent du chemin est l'aide de la réprimande, l'aide qui empêchera de faire du mal et du tort à autrui. Par conséquent, une aide qui doit avoir pour but la protection de l'école spirituelle. Car l'école spirituelle est le moyen, l'instrument à l'aide duquel ceux qui ont part à la vertu constante approchent ceux qui séjournent encore dans l'ombre et l'opprobre. L'école est en outre un chantier de travail pour ceux qui développent la vertu constante. Il faut bien comprendre ces deux aspects de l'école spirituelle pour prévenir nombre de malentendus, car qui perd l'école perd tout. Vous entrevoyez à présent comment, au cours de toutes ces années d'existence, l'école spirituelle est restée orientée sur la formation d'un groupe tout à fait exceptionnel au sein du groupe général. Dès le début, on a pensé que ce serait un groupe capable, à partir de la base, d'entrer dans la vallée du royaume et de posséder la vertu constante. Eh bien, tout d'abord, nous possédons dans la communauté de la Tête d'Or, qui compte 32 membres, un tel groupe exceptionnel au sein du groupe général. C'est un groupe intérieur et dirigeant, dont la tête directrice du corps vivant de l'école spirituelle. Ensuite, le sixième aspect s'est intensément vivifié depuis quelques années. Il s'y accomplit un travail n'utilisant pas les moyens de la nature, mais exclusivement les facultés supérieures. C'est une tâche qui, s'adressant à tous, est menée par tous dans l'école spirituelle. Puis, troisièmement, il y a un groupe qui est stimulé à la vie intérieure et dont les membres participeront un jour consciemment à la vie de l'âme divine par la magie du Graal. Dans le cadre de notre sujet, nous ne pouvons pas approfondir ce point plus avant, mais vous comprenez que les groupes considérés ne peuvent exécuter la tâche assignée sur la seule base du pays des ombres et de l'opprobre, mais que leur point de départ est exclusivement le pays des vrais vivants. Vous saisissez donc pleinement ces paroles de Lao Tzu. Qui connaît sa lumière et pourtant reste dans l'ombre, est un exemple pour le royaume. S'il est un exemple pour le royaume, la vertu constante ne lui manquera pas et il retournera dans l'infini. Qui connaît sa gloire et demeure dans l'opprobre et la vallée du royaume. Nous vous parlerons, au chapitre suivant, du chemin de l'offrande de l'homme en pleine possession des forces des deux courants de la monade et de ses résultats.